allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Black Lives Matter, MeToo, Balance ton porc, Marche des fiertés, Youth for Climate, L214, Extinction, Rébellion. Cette première partie de 21e siècle est traversée par de nombreuses revendications. Plus de justice sociale, bien sûr, mais aussi plus d'égalité entre les sexes, entre les genres, entre les races, pour reprendre ce terme dans son acception anglo-saxonne, entre les vivants humains et non-humains. De plus en plus de ces mouvements affichent la volonté de faire converger les luttes, de rassembler sous la même bannière féminisme, animalisme, antiracisme, comme conséquence d'un même système de domination. L'intersectionnalité, c'est son nom, est ainsi devenue l'épouvantail des conservateurs de tout poil, désireux d'y voir la menace ultime contre la tradition, laquelle on ne sait pas trop. Et pourtant, si je vous disais qu'à la fin du 19e siècle, déjà, des femmes se battaient non seulement pour plus de justice sociale, mais aussi pour leur propre émancipation, mais aussi contre la tauromachie, mais aussi contre la vivisection et j'en passe. Proche de la célèbre Louise Michel, Marie Huot fut une de ces combattantes à la fois libertaire, féministe, antispéciste. Notre invitée a consacré un livre à cette figure charismatique. Il en montre l'actualité en dressant des parallèles entre la grève des ventres revendiquée en cette fin du 19e siècle par Marie Huot et le mouvement Birth Strike initié en 2019. Il montre encore l'actualité du combat contre la corrida, l'actualité du combat animaliste. On vous explique tout ça pendant les 20 prochaines minutes avec Sylvain Vagnon. Donc, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur au LIRDEF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation, et donc auteur de ce super ouvrage. On s'est régalé à le lire, vraiment, sur Marie Huot, sorti en avril dernier. C'est bien ça, c'était le mois d'avril.
Tout à fait.
Alors, avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour.
Et en seconde partie d'émission, le reportage nous emmènera à Euromove sur la plateforme Eurosteam. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors Sylvain, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans Allume la science. On vous avait déjà fait venir pour parler éducation, pédagogie nouvelle, alternative, libertaire. C'est votre champ. Alors Marie Huot, cette fois-ci, pourquoi ? Comment vous l'avez rencontrée ?
Alors Marie Huot, c'est une rencontre en réalité il y a assez longtemps parce que j'ai trouvé justement des bribes. Elle est souvent citée sur des domaines vraiment très très différents de celui de l'éducation. À part entière. Et puis en creusant, justement, parce que son nom est apparu beaucoup au moment où on a marqué un petit peu les 8 milliards d'habitants en novembre dernier. Donc elle était souvent citée, mais on n'allait pas plus loin. Donc voilà, c'est aussi une envie de chercheur d'aller creuser. Et puis finalement, je me suis retrouvé sur, entre guillemets, mes champs de compétences, on va dire, plus traditionnels, parce qu'effectivement, elle est libertaire. Elle est aussi théosophe et puis surtout elle amène une vision de l'éducation, l'air de rien, parce que c'est une éducation sexuelle et puis c'est aussi une éducation intégrale, c'est-à-dire avoir conscience de son corps, de ses émotions, et elle en parle énormément dans ses textes.
Alors votre ouvrage, il est composé de 5 parties et la première s'ouvre sur cette fameuse grève des ventres. On est en 1892, Marie Huot signe 2 textes, Maternité et Mal de vivre, où elle inscrit cette grève des ventres dans un contexte de place du corps des femmes dans la lutte révolutionnaire, avec le refus de l'exploitation des enfants comme future chair à canon. Est-ce que c'est tabou ce qu'elle évoque alors en ces termes-là ?
Alors c'est tabou dans la façon dont elle le dit, parce que c'est extrêmement provocateur. Elle le fait dans une conférence où elle prône véritablement cette grève des ventres. Et puis elle fait ce petit texte très court qui s'appelle Maternité, qui est quasi une insulte en vérité pour le gouvernement, parce qu'elle estime justement que tout enfant, on doit avoir conscience en tout cas de ses enfants et savoir aussi que quand on va être mère, on doit avoir conscience aussi d'être mère. Donc elle attaque aussi le système dans sa globalité. Elle n'attaque pas du tout les femmes, elle attaque le système qui fait d'abord des femmes et avant tout des mères. Et donc ça, c'est un élément extrêmement fort pour elle.
Alors, on est à la fin du 19e siècle, c'est la lutte des classes qui prime à l'époque. Quelle place, justement, quelle place elle peut avoir, cette revendication ? Parce que, donc, on l'a dit, elle refuse la chair à canon, faire des enfants pour la chair à canon, contre la misère, mais il y a aussi un désir d'émancipation féminine. Quelle place elle a, cette revendication d'émancipation féminine, dans le contexte libertaire, anarchiste de l'époque ?
Alors, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est qu'elle est... Mario est au croisement, en réalité, de nombreuses histoires. Ce qui fait qu'à la fois, on la connaît, parce que quand on parle de l'antispécisme, de l'émancipation féminine, etc., elle appartient à ces mouvements. Mais d'un autre côté, comme elle regroupe, en réalité, ces différents mouvements, elle apparaît très singulière. C'est-à-dire que, honnêtement, la lutte, en réalité, antimilitariste, hein, de faire de ses enfants de la chair à canon, appartient au mouvement révolutionnaire. Mais elle appuie, en réalité, pas simplement d'en faire de la chair à canon, mais la naissance même de cet enfant est discutée. Et donc, elle propose, et d'une façon même assez particulière, hein, de dire que bah, finalement, ça serait le moyen ultime de bloquer le système productif, industriel, etc., a besoin de main-d'œuvre. Eh bien, on lui bloquerait, on bloquerait ce système. Donc, ça serait vraiment plus qu'un blocage des rouages industriels. C'est un véritable blocage, de l'humanité. Donc, en cela, c'est tabou, il faut le dire là-dessus. Elle est un peu singulière aussi, parce que même si le mouvement révolutionnaire accepte, hein, évidemment, c'est cette idée, le fait de le dire aussi de façon provocante, elle met aussi en balance et en bascule, en réalité, le mouvement révolutionnaire qui est aussi formé beaucoup d'hommes qui aussi ont l'habitude de dominer. Et là, elle arrive dans des conférences où il y a beaucoup de monde, hein, quand même, à l'époque. Elle devient très, très vite une conférencière appréciée. Bon, aussi appréciée parce qu'elle a une répartie extrêmement forte. Donc, elle provoque énormément. Donc, elle a des opposants et elle adore ça. Et ça se sent dans ses répliques. Donc, ça fait que d'un seul coup, elle apparaît aussi dans la scène politique comme quelqu'un à la fois de singulier, mais aussi qui porte des revendications fortes pour les femmes.
Alors, dans ses textes, elle parle de l'avortement et des violences médicales perpétrées sur les femmes à l'occasion de ces avortements, par les médecins hommes, bien sûr. Est-ce que c'est un thème actuel qu'on voit encore décliner à travers les dénonciations des violences obstétriques, par exemple ?
Alors, tout à fait. D'ailleurs, dans le livre, puis c'est une biographie, mais ce n'est pas une biographie où on va commencer à sa naissance jusqu'à sa mort. Hein. Dès l'introduction, je brosse, on a été presque sa vie. Puis après, j'essaye de trouver des thématiques extrêmement fortes, enfin qui me semblent fortes. Et en tout cas, une des lignes ici de force, effectivement, c'est elle met en avant, et on en reparlera après sur la cause animale, parce que pour elle, tout est lié. Hein. Ce patriarcat, finalement, domine dans tous les domaines. Et là, elle touche un point avec notamment aussi Maria de Rheims, le fait de cette toute-puissance des hommes et des médecins qui, finalement, imposent leur façon de voir les choses. Et d'ailleurs, c'est une actualité, évidemment, très forte, hein, ici, sur ces violences, mais c'est aussi sur la méconnaissance du corps de la femme. Enfin, tous les éléments avaient été très actuels, hein, justement, de reproches qu'on peut faire à une médecine masculine se retrouvent, en réalité, dans les revendications qu'elle a. Et puis même, puisque ça a été cité, hein, de parler de l'avortement comme ça, de façon puissante dans un texte, ça, c'est assez novateur. Voilà. Le terme de grève des ventres appartient à Mario, mais aussi à d'autres personnes.
Colnay, vous parlez de...
Pardon ?
Vous parlez de Colnay, c'est ça aussi
qui... Oui, voilà,
écrit,
c'est ça. Et c'est un mouvement quand même féministe extrêmement fort à ce moment-là, mais elle, en mettant vraiment le corps et le ventre des femmes dans le débat politique, ça, c'est nouveau.
Alors, à travers cette grève des ventres, on voit se dessiner aussi un néo-malthusianisme qui n'a pas toujours fait consensus. Il y a toujours le risque de l'eugénisme. Est-ce qu'elle a essuyé des critiques là-dessus ?
Alors, elle a essuyé des critiques, comme tout le mouvement néo-malthusien a essuyé des critiques. Parce que être malthusianisme, ça veut dire donc avoir une conscience, en réalité, de sa maternité, hein, de choisir, de désirer ses enfants, ce qui est quand même, à l'époque, une révolution, il faut le voir. Et donc, c'est néo-malthusianien, dont notamment, on en reparlera, je pense, le pédagogue Paul Robin. Et là, je me retrouvais aussi un peu plus dans ma zone de confort, hein, parce que c'est un pédagogue extrêmement connu pour
le
mouvement.
Il arrive juste derrière dans les questions, c'est parfait, vous faites la transition.
Et donc, elle va être vraiment à ses côtés, notamment pour diffuser aux femmes, mais aussi d'ailleurs aux hommes, la connaissance de la contraception. Donc, ces néo-malthusiens ont cette importance de diffuser et de connaître les informations, mais c'est très clair aussi que derrière, pour eux, il y a cette idée de bonne naissance qui est très, très, très discutable, évidemment, qui est un eugénisme, donc je le dis dans le livre, certaines fois diffus, puis des fois très clair, hein, en disant, ben oui, on va choisir les enfants, et bien on va pouvoir aussi, on doit avoir la possibilité d'avorter aussi au moment où on le voudra. Et ça, évidemment, là, il y a une discussion très forte dans le mouvement révolutionnaire, parce que là, elle se retrouve, enfin la majorité en tout cas du mouvement ne veut même pas discuter cette question-là.
Alors justement, Paul Robin, vous en parlez dans le second chapitre de votre ouvrage, de lui et du mouvement qui se développe avec lui, la génération consciente. Donc c'est un pédagogue, vous en avez parlé, et il défend aussi, aux côtés de Marie-Huo, l'idée d'une éducation sexuelle. Est-ce qu'il y a une place à l'époque dans l'enseignement ou dans la société pour cette éducation ?
Alors justement, l'importance hein, de Paul Robin, c'est à l'époque justement de Marie-Huo, il est déjà assez âgé, il est connu justement dans le mouvement libertaire parce qu'il a mis en place une éducation dite intégrale, notamment dans un orphelinat qui s'appelle Sans-Puits, et pendant une quinzaine d'années. Et cette idée d'une éducation intégrale, c'est une éducation intellectuelle, ça, je veux dire, c'est très classique, mais aussi une éducation du corps, hein, et une éducation, on va dire, des émotions. Donc quelque chose qui aujourd'hui est évident aussi, mais qui pour lui, cette articulation en tout cas, et la non-hiérarchie, on va dire, ici, qui doit se retrouver. Donc très clairement, pour lui, bah, l'éducation sexuelle est un élément fondamental pour la connaissance de son corps, mais aussi la connaissance des autres, de ses émotions, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Évidemment, il va, c'est pour ça que je précise un peu son expérience pédagogique s'arrête en 1894 parce que justement l'extrême droite et la droite lui reprochent cette éducation sexuelle et déjà cette mixité entre garçons et filles, hein, ce qui est déjà pour à l'époque un scandale, mais de mettre en avant en tout cas une éducation sexuelle et le besoin d'une éducation sexuelle, enfin on va dire plutôt d'une connaissance hein, de son corps est quelque chose d'extrêmement fort. Et là, bien sûr, Huo se retrouve totalement avec un terme très fort, hein, je trouve, de généralisation consciente. Hein, je trouve qu'ils ont aussi le sens des formules, hein, quand même, avoir un groupe et l'appeler génération consciente. Je pensais même au début en faire le titre du livre, parce que c'était vraiment quelque chose qui apparaît très fort aussi au XXIe siècle.
Alors, on sait à quel point l'histoire peut invisibiliser les gens, notamment les femmes. Alors, dans votre livre, vous citez beaucoup de personnalités du féminisme, Madeleine Pelletier, Jeanne Imbert, Nelly Roussel, bon, Louise Michel, évidemment. On a du mal à se rendre compte la manière dont ce débat a pu infuser dans la société du 19e. C'est quelque chose de très intellectuel ou alors c'est réellement un débat au sein de la société ?
Alors, c'est difficile. C'est parce que c'est un débat déjà dans le mouvement révolutionnaire. Parce que justement, le mouvement révolutionnaire fait une place aux femmes. Hein, il faut le voir. Bon, il y a Louise Michel qui est une figure, hein, évidemment. Mais derrière Louise Michel, il y a énormément de femmes, justement, qui, dans le mouvement ouvrier, vont pouvoir affirmer leur force. Mais très vite, il faut quand même le dire, il y a aussi un plafond. Un plafond et pas simplement de verre, où les hommes révolutionnaires, et d'ailleurs on le voit bien, enfin, j'essaye de donner des exemples où certains révolutionnaires lui disent « bon, voilà, t'es gentil, mais là maintenant il va falloir revenir sur tes plates-bandes ». Évidemment, elle revendique au contraire de mettre à plat directement les spécificités des femmes et surtout l'importance qu'elles ont. Et justement, vous voyez, elle retourne un peu la situation. C'est-à-dire que même les révolutionnaires, certains veulent cantonner les femmes au rôle de mère, même si elles sont aussi des travailleuses, etc. Parce qu'il faut voir que les femmes n'ont pas attendu 1914 pour travailler, mais dans le mouvement ouvrier, les femmes ont toujours travaillé. Il suffit de regarder Germinal, on voit bien que tout le monde va à la mine, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et elle appuie en mettant une femme est une femme. Elle n'a pas besoin d'être une mère, nécessairement, etc. Donc on voit bien qu'elle touche aussi des points qui grippent un petit peu, on va dire, notamment le mouvement révolutionnaire. Alors après, dans la société, là, je donne des exemples, c'est quand ils veulent diffuser, par exemple, les moyens de contraception, ça marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils arrivent dans les usines, etc., et qu'ils proposent. Et d'ailleurs, je prends, à contrario, le mouvement qui est contre, justement, qui est un mouvement nataliste, et qui dit, bah, ça a l'air de drôlement bien marcher, leur propagande, il faut qu'on fasse même, on appuie avec nos dirigeants pour avoir une loi qui interdise cette diffusion des moyens contraceptifs, parce que visiblement, il y a un impact. Donc, pour répondre à la question, c'est pas une conscience d'un débat très fort dans la société, mais quand même, tout le monde est bien confronté à cette question de la natalité à l'époque et de désirer ses enfants, c'est quand même quelque chose de fabuleux et qu'on n'a pas à l'époque.
Alors dans ce chapitre, vous citez aussi d'autres malthusiens comme Sébastien Faure, Victor Méric, mais aussi des grandes figures de l'anarchisme, Proudhon, Marx, Bakounine, Kropotkin, Élisée Reclus. Quel est le lien entre anarchisme et néo-malthusianisme ?
Alors il y a un fort lien, c'est-à-dire qu'en réalité la question même de choisir, enfin en tout cas d'avoir cette maternité choisie, apparaît extrêmement fort pour tout le mouvement ouvrier. Donc on voit bien que c'est pour ça que je les cite, ils s'y intéressent tous, hein, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils sont même en désaccord. Hein. C'est-à-dire que la majorité, le mouvement néo-malthusianien va être puissant dans le mouvement révolutionnaire, mais il ne va pas être majoritaire. Et notamment, ils s'inquiètent, enfin, certains s'inquiètent en tout cas, c'est qu'on revienne dans une norme. C'est-à-dire le risque, et notamment Élisée Reclus, qui est un géographe qui a révolutionné sa discipline, mais qui est un révolutionnaire extrêmement important, mais d'une finesse, je pense, là, rarement égalée, met en avant véritablement cette idée en disant « Attention, je ne suis pas contre le néo-malthusianisme, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve de ce côté-là à obliger certaines personnes à faire moins d'enfants. » Ce n'est pas ça notre question. Si la liberté est en avant, et c'est ce que veulent les libertaires, eh bien, on n'a pas à mettre en avant ici ce contrôle, en gros, des naissances, puisque c'est quand même ça qui est derrière. Donc, on voit bien qu'il y a des accords qui sont d'ailleurs, atemporels. Hein, on pourrait discuter de ça et qui ne sont pas toujours très politiques, mais qui sont aussi humains. Et on voit bien que là où Mario, à mon avis, tape dans des points forts hein, ici, comme le mouvement d'ailleurs féministe, c'est parce qu'il touche justement sur des éléments importants qui touchent la société, mais qui touchent la famille et qui touchent l'individu.
Alors, on va continuer d'avancer, le temps passe super vite. Donc, une des grandes surprises pour moi dans votre livre, ça a été de découvrir que le courant antispéciste, finalement, alors, est-ce qu'on peut déjà parler d'antispécisme ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le courant animaliste, il était déjà très présent à la fin du 19e siècle, donc notamment à travers deux combats principaux, la vivisection, la vivisection et la tauromachie. Donc, on va parler de la vivisection, puisque Mario a créé la Ligue populaire contre la vivisection, dans laquelle on retrouve encore des féministes, Maria de Rheims, je crois, est dedans aussi. Louise Michel, je sais, elle n'est pas dedans, je crois, mais en tout cas, elle souscrit à ce combat. Ça, c'est vraiment un débat aussi qui secoue la fin du 19e siècle, la place de l'animal.
Alors oui, la cause animale en vérité apparaît. Alors elle apparaît en vérité dès le milieu du 19e, mais elle apparaît aussi très fortement avec l'industrialisation. C'est-à-dire que l'industrialisation, en créant une machine, d'ailleurs l'homme devient une machine, enfin etc., fait qu'il y a une vraie réflexion. Alors Mario va très loin, puisque c'est quand même une des premières qui crée des chenilles, qui aide les animaux qui sont à l'abandon. Et puis c'est surtout qu'elle en fait, elle est effectivement antispéciste. Clairement dans la définition.
Le discours est vraiment antispéciste.
Ah, totalement. Et alors sur la vivisection, elle touche un point extrêmement intéressant parce que c'est celui d'une médecine occidentale et notamment française qui appuie beaucoup sur le côté scientifique, mais au nom de la science arrive à des ignominies. Et en plus, à l'époque, comme on ne connaît pas trop ce qui se passe, ça peut être public. Donc elle intervient de façon violente, on va dire comme ça, pour interdire justement en disant mais vous vous rendez compte que cet animal est vivant, vous êtes en train de le torturer, et c'est tout, et c'est un être vivant. Et donc on voit bien qu'elle liste véritablement tout ce qui est la cause animale, et elle trouve justement que le mouvement révolutionnaire doit absolument prendre cette question en main. Parce que c'est lui qui, en tant que révolutionnaire, doit montrer quelque chose de nouveau dans ce qu'est l'individu et dans ce qu'est l'humain. Et prendre en compte l'humain, pour le mouvement révolutionnaire, c'est le plus important. Et humain, eh ben, elle ralentit être vivant, et l'animal est un être vivant.
Mais justement, vous dites aussi dans votre livre que Mario considère à ce moment-là que c'est aux socialistes d'être les fers de lance de ce combat. Il y a une législation en la matière à l'époque ou pas encore ?
Alors, il y a une législation qui est celle de 1850, qui est donc la loi Gramont et qui aide en tout cas à la bienveillance pour les animaux. Mais justement, et c'est là où il y a une scission très forte, c'est qu'elle quitte la SPA, enfin la Société Protectrice des Animaux, qui est une société pour elle beaucoup trop modérée. Et puis d'un autre côté, elle s'aperçoit qu'il faut aller plus loin, d'où cette ligue populaire contre la vivisection et contre bon, aussi la tauromachie qui commence à se développer. Et à chaque fois, bon, là je pense qu'il n'y a pas à prendre parti, parce que justement l'intérêt aussi de cet ouvrage, c'est que bon, il y a plein d'éléments où, avec Mario, on peut pas, il n'y a pas une personnification nécessairement. Et c'est d'ailleurs ce que je cherchais aussi, c'est pas quelqu'un où on se dit tout de suite, oh, fantastique, ça. Il y a des éléments forts, très clairement. puis des fois ça peut glisser, et on voit bien que très très vite elle peut devenir anti-vax, voilà, si on prenait un vocabulaire actuel, parce que justement elle s'inquiète de ce scientisme qui peut apparaître dans la société. Et dans la SPA par exemple, ben là elle reproche à la SPA d'être trop modérée, de ne pas s'intéresser aux vrais problèmes qui sont véritablement les animaux en tant que tels. Et si on y reviendra sur la tauromachie, c'est aussi assez spectaculaire de voir qu'elle amène tous les éléments qui sont ceux qui sont revendiqués aujourd'hui contre la tauromachie il y a quelques mois dans un projet de loi.
C'est d'une actualité. Alors justement, dans l'introduction, j'ai parlé de la première peut-être intersectionnalité. Je ne sais pas si on peut déjà parler de ça, mais effectivement, elle fait des ponts entre le féminisme, l'animalisme. J'ai beaucoup aimé, moi, l'image qu'elle donne où quand on s'occupe des animaux, on devient vite une vieille femme en manque d'affection. La folle aux pigeons, ça parlera à certains. Mais est-ce qu'on peut parler justement donc d'intersectionnalité déjà ?
Ah oui, on peut en parler. C'est peut-être d'ailleurs là où elle était tellement, on va dire, pionnière qu'elle n'a pas été comprise. C'est là où même le mouvement révolutionnaire s'inquiète que la question sociale ne soit pas la priorité des priorités. Et même à un moment, j'ai essayé de brosser ça, c'est qu'elle est proche de Louise Michel, parce que Louise Michel est aussi quelqu'un qui a précisé d'ailleurs que sa lutte contre l'oppression vient de ce qu'elle a vu sur les animaux.
J'avais noté voilà. Sa phrase qui est assez...
Et elle écrit beaucoup, parce qu'elle a une correspondance avec Huo intéressante, d'ailleurs aussi pour des questions très... quotidienne de s'occuper des chats parce que Louise Michel se retrouve en prison. Et donc, c'est Mario qui doit s'occuper de ses chats et les nourrir. Donc, il y a des choses qui est assez amusant, en tout cas, dans cette logique. Mais au-delà de ça, c'est que surtout, Louise Michel lui précise qu'elle est totalement d'accord avec son combat, qu'elle, en tant que personne, parce qu'il faut bien voir qu'à la fin de sa vie, Louise Michel est une figure tutélaire. Hein, dès qu'elle apparaît, évidemment, c'est la Vierge Rouge, etc., bon, du mouvement révolutionnaire. Et elle lui précise, dans un tour de phrase, qu'elle ne pourra pas s'engager plus parce que, justement, le mouvement révolutionnaire ne doit pas aussi... doit hiérarchiser, notamment la question sociale doit être toujours prioritaire. Mais qu'elle, au fond d'elle-même, comprend bien que c'est quelque chose de fondamental, mais que politiquement, stratégiquement, il faut faire attention à ça. Et c'est là où Mario se retrouve certaines fois un peu à la marge, parce que le mouvement révolutionnaire lui reproche d'appuyer d'abord sur les animaux. Et puis, bon, quand vous avez cité aussi l'idée de la femme au pigeon, ben, c'est aussi du sexisme pas du tout déguisé, hein, où on a sous-entendu, elle est seule, etc., ce qui n'est pas du tout le cas de Mario. Et donc, justement, elle arrive à balayer, en tout cas, ce genre d'attaque sexiste directe.
Alors, dans votre avant-dernier chapitre, vous présentez Mario aussi comme figure de la théosophie. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire un mot de ce courant qu'est la théosophie et son articulation avec la mouvance révolutionnaire ou socialiste ?
Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en avant parce que c'est peu connu, même s'il y a eu des recherches dessus assez claires. Le mouvement théosophe est un mouvement très particulier hein, qui apparaît dans la dernier quart du 19e siècle avec des personnalités extrêmement fortes, mais qui est anglo-saxon et qui veut une sorte de fraternité universelle et l'idée en tout cas que on va en tout cas dans une visée très spiritualiste et même ésotérique, il faut être clair, développer un lien entre toutes les religions, entre toutes les façons de voir. Et donc, c'est des gens qui s'intéressent énormément à tout ce qui se passe en Inde, par exemple, et qui ramènent le yoga en Europe. Enfin, il y a des choses assez amusantes de ce côté-là. Mais c'est d'un autre côté un mouvement très intéressant parce que ce sont des fortes personnalités, très instruites, qui ont des stratégies. Hein, et qui, par exemple, vont être les premières à mettre en avant le mouvement végétarien européen, qui va développer l'éducation nouvelle, hein, justement. Alors, dans une visée, encore une fois, très spirituelle, en disant, bah, on va attendre peut-être un messie, etc. Donc, il faut préparer cette éducation. Donc, des fois, on s'éloigne un petit peu des questionnements très politiques, mais qui a une forte influence dans les milieux intellectuels de l'époque. Beaucoup aussi milieux artistiques sont touchés. Et donc, elle... participe à ça. Et le mouvement socialiste n'est pas étranger, justement, à ce développement qui voit dans la théosophie un moyen aussi de bouleverser la société, on va dire, industrielle, comme on l'entend.
Alors, on n'aura pas le temps. Le temps est passé trop vite. On n'aura pas le temps de tout couvrir. Donc, vous, dans ce dernier chapitre, donc, vous montrez les liens aussi entre la théosophie, la cause animale et le féminisme. Vous concluez, en fait, en faisant un lien entre le Bird Strike qui a émergé en 2019, puis qui a pas très bien marché, et cette grève des ventres qui était donc le combat de Mario. Vous concluez en disant que finalement Mario, elle est peut-être finalement plus punk que libertaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, bah parce que justement, elle, ce côté pas de futur, c'était aussi sa provocation hein, quand elle arrivait, disant peut-être que l'humanité, l'espèce humaine va s'éteindre. C'est pas un problème, puisque en réalité, les animaux nous survivront. Donc, il y avait ce côté punk, véritablement. Et d'ailleurs, elle a été un peu perçue comme ça à l'époque. On ne disait pas évidemment punk, mais en tout cas, dans cette logique. Moi, ce qui me semble intéressant aussi avec elle, c'est qu'elle a touché, à mon avis, alors cette fois, elle n'a pas toujours creusé, mais elle a touché, notamment parce qu'elle faisait des conférences, des points qui permettront ensuite... de faire émerger de vraies réflexions. Et ça, on s'aperçoit que sa qualité, en tout cas majeure, à mon avis, c'est d'être entré dans des domaines qui n'étaient pas perçus, en tout cas dans le mouvement politique ou même social, et celui du féminisme, avec un féminisme justement très percutant aussi, très percutant. Et ce lien avec la cause animale, cette symbiose, on va dire, avec la cause animale, donne une caractéristique très différente. Alors pourquoi, aussi juste pour finir sur la grève des ventres, effectivement, le mouvement s'est un peu essoufflé? J'en parle parce que le mouvement, c'est vrai, s'est créé en 2019, et puis il s'est vraiment arrêté en 2021, parce que justement, il n'a pas su, clairement, enfin d'après ce qui est... n'a pas su trouver la convergence avec les mouvements sociaux. Et c'est là où j'ai essayé de faire le lien, parce que Mario, justement, mettait en avant qu'il ne fallait pas hiérarchiser, il fallait bien faire cette convergence des luttes, et voilà.
Mais un grand merci, Sylvain Vagnon. Et vraiment, on vous invite à aller lire. On est passé un peu rapidement sur la fin, mais ça donnera encore plus envie aux gens d'aller lire ce livre. Je n'ai pas donné la maison d'édition. Vous pouvez
c'est
me la rappeler.
C'est ACL, donc c'est Atelier de création libertaire. C'est un éditeur de Lyon.
Et un grand merci encore. On passe maintenant à notre séquence reportage. Donc Aline, cette semaine, nous allons au laboratoire Euromove.
Oui, et c'est Alexandre Legros qui nous ouvre les portes de la plateforme Eurostim. Ici, on va stimuler votre système nerveux central et périphérique afin de définir plus précisément les normes d'exposition aux champs électromagnétiques, mais aussi pour essayer de mieux traiter certaines maladies neurodégénératives.
Bonjour, donc je m'appelle Alexandre Legros. Je suis chercheur contractuel ici à l'Université de Montpellier. Je travaille également à un institut de recherche canadien et une université canadienne. Et on a développé ici une petite entreprise qui s'appelle Eurostim, qui travaille aussi sur les mêmes thématiques de recherche. Des aspects de stimulation du système nerveux central et du système nerveux périphérique chez l'humain. Donc voilà, c'est un peu à ça que servent tous les dispositifs que vous pouvez voir ici. Alors là, on a un système de bobine qui ressemble à, on va dire, à un mini IRM vertical dans lequel on pourrait glisser sa tête. Ce système, ce sont deux bobines dans lesquelles on fait circuler un courant électrique qui permet de générer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, quand on a la tête à l'intérieur de ce champ magnétique, la tête étant un conducteur, on induit des petits champs et courants électriques à l'intérieur du cerveau. Et on essaye de comprendre comment ces petits champs et courants électriques vont moduler l'activité électrique physiologique, normale du cerveau humain, et vont changer le comportement moteur ou le comportement cognitif.
Alors là, on ne l'a pas dit, il y a une chaise en fait, où du coup la personne peut s'asseoir, et justement sa tête va se situer là, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est ça ?
Exactement, c'est comme un petit tube, donc on peut imaginer, enfin c'est comme ça que je le vois, un petit tube d'IRM qu'on aurait placé verticalement, et ça se présente sous la forme de deux petites bobines placées l'une au-dessus de l'autre.
Et du coup, ces résultats-là, vous, en termes de recherche, comment vous les exploitez ?
Alors, on a deux directions, on a deux chemins de recherche. Le premier, qui est financé par des entreprises, EDF, Hydro-Québec, RTE, des entreprises qui vont produire et exploiter l'électricité. Donc ces entreprises ont à cœur que les normes et recommandations internationales d'exposition aux champs électromagnétiques soient solides et basées sur des données collectées chez l'humain. Donc ces entreprises vont financer des projets de recherche chez l'humain où on va mesurer le plus petit seuil d'effet à partir duquel des champs électromagnétiques vont moduler l'activité électrique et l'activité neurophysiologique chez l'humain. Et à partir de ces plus petits seuils d'effet, cette information va être publiée, rendue disponible aux organismes internationaux qui produisent les limites d'exposition et les recommandations, l'ICNIRP, essentiellement pour l'Europe, IEEE pour l'Amérique du Nord, le Japon, Et sur la base de ces données acquises chez l'humain, ces organismes vont produire des standards et recommandations qui sont les plus solides possibles. Donc, on va commencer par le poste de travail, l'ordinateur ici. Donc, à partir de ce poste de travail, on va générer des formes d'ondes qui sont les formes d'ondes qui nous intéressent. Champ sinusoïdal à 60 Hz, soit 50 Hz en Europe, qui correspond au courant électrique. On va l'envoyer dans cette armoire ici. Cette armoire va amplifier le courant électrique et va générer des courants électriques très puissants qui vont passer dans les câbles derrière, qui passent dans le plafond. Et qui vont redescendre ici à l'arrière du mini-IRM et qui vont alimenter le mini-IRM. Et donc les courants produits, sinusoïdaux à 60 Hz, vont être injectés dans ces bobines qui vont à leur tour produire un champ magnétique à cette fréquence-là. Ce champ magnétique va induire dans le cerveau des champs et courants électriques à cette fréquence-là et on va avoir en retour des comportements qui vont être modifiés ou pas en fonction de l'intensité du signal et en fonction de la fréquence du signal. Et quand on aura ce plus petit effet, on va l'utiliser pour comprendre ce qui se passe, publier et rendre cette information disponible à ces organismes internationaux.
Alors, en pratique, qui est-ce qui s'assied sur cette chaise, justement ?
En pratique, pour développer les protocoles, c'est nous, l'équipe, dans un premier lieu. Après, ce sont toutes les personnes qui auront vu la petite notice d'information qui est affichée à Euromove et dans l'université, qui nous contacteront et qui voudront participer à l'étude. Donc, en général, ce sont des étudiants, mais n'importe quelle personne de nos familles qui pourrait être intéressée. C'est à peu près n'importe qui, des travailleurs, des entreprises d'électricité. C'est eux qui ont commencé ces études en 2001. On a commencé ça ici. Donc voilà, c'est très, très varié. En ce moment, l'étude qui est conduite évalue la perception de magnétophosphène. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes installé, assise dans ce mini IRM avec la procédure qu'on vous a décrite. On va injecter dans votre cerveau de petits courants électriques. Vous allez avoir les yeux fermés. Et selon les conditions, vous allez voir comme une forme de feu d'artifice stroboscopique de lumière blanche, comme si vous étiez en boîte de nuit un petit peu, qui vont s'allumer dans certaines conditions. Donc c'est ça qu'on appelle les magnétophosphènes. C'est le résultat de l'interaction entre le champ et les neurones de votre rétine. Et c'est au seuil de déclenchement de ces magnétophosphènes qu'on s'intéresse en ce moment. Le deuxième axe, c'est quand on arrive à ce seuil, on a tout un deuxième axe qu'on est en train de développer. C'est qu'on veut utiliser ces seuils à partir duquel on a des effets dont on comprend maintenant les mécanismes pour les appliquer dans le traitement de maladies neurodégénératives, type symptômes cognitifs dans la maladie de Parkinson ou rééducation de symptômes dans les AVC, post-AVC, les choses comme ça. Donc on a cette seconde direction qu'on souhaite promouvoir dans les années qui viennent d'application clinique et de développement.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.